L'Écosse celtique. Au plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, d'abord une enquête historique, l'Écosse celtique et les légendes du Graal. Peut-être destination finale de l'ordre des Templiers. Puis, l'énergie des guérisseurs. Avez-vous le fluide ? Mais gare aux escrocs. Et les légendes du Graal. Si une enclave de Templiers s'était réellement installée en argile et avait fait alliance, alors je précise aux auditeurs que l'argile est un comté de l'Écosse, par le biais de mariage avec le système des clans, la région aurait constitué pour elle un habitat naturel et adapté. Par certains côtés, cela aurait été assez proche d'un retour au bercail. Certes, les Templiers étaient une légende vivante, mais il y avait en Écosse, et surtout dans le comté d'Argyll, des légendes plus anciennes avec lesquelles, aux yeux de la population, l'ordre se serait identifié. En effet, la région offrait un arrière-plan de légendes dans lequel les Templiers se seraient intégrés sans effort. Est-ce qu'ils se sont intégrés ? Là, les historiens sont partagés. Vers la fin du XIIe siècle, les premiers romans du Graal apparurent en Europe occidentale. Au début du XIVe siècle, c'est-à-dire à l'époque de Bruce et de la dissolution du Temple, c'était un genre encore très en vogue qui avait engendré un corpus immense de littérature parallèle. Le concept de la chevalerie, tel que l'exposaient ses ouvrages, approchait alors de son zénith. Les souverains chrétiens aspiraient avec affection à imiter le noble modèle qu'offrait Perceval, Gauvin, Lancelot et Galade, ou du moins tenter de renvoyer une image semblable à leur peuple. Ainsi, par exemple, Édouard Ier voulait se poser en Arthur moderne, au point de tenir des joutes de table ronde. Ainsi, la veille de Bannockburn, pendant que les deux armées s'alignaient pour la bataille, Bruce et le chevalier anglais Henry de Bohun s'affrontèrent en combat singulier, le genre de duel à mort tant célébré dans les romans chevaleresques. Les romans du Graal, bien que condamnés par les autorités ecclésiastiques partout ailleurs en Europe, connaissaient un succès particulier en Écosse. Bruce, ne l'oublions pas, cherchait à rétablir un royaume celtique dont les traditions remontaient, par David Ier, à la Dalariada. Or, les romans du Graal contenait un important élément celtique, une somme de connaissances et de légendes que l'on ne trouvait pas dans la littérature ultérieure, issue de l'Angleterre normande ou du continent. Sous la forme où nous les connaissons aujourd'hui, les romans du Graal sont un genre particulièrement hybride qui reflète un processus compliqué de croisement culturel. Ils contiennent une somme importante d'éléments judéo-chrétiens, dissimulé ou déguisé sous une forme dramatique élaborée. Mais ces éléments ont été greffés sur un corps de légendes et de sagas à caractère uniquement celtique. Longtemps avant que le Graal lui-même soit apparu dans la littérature, avec sa dimension spécifiquement chrétienne, des poèmes et des récits celtiques évoquaient la quête chevaleresque d'un mystérieux objet sacré, doté de propriétés magiques, un château lointain habité par un roi infirme ou impotent, des terres désolées, stériles, souffrant du même fléau que leur souverain. Ainsi, certains spécialistes ont soin depuis peu de distinguer entre le Graal chrétien, des romans plus tardifs et mieux connus, et le Graal païen de leurs précurseurs. À vrai dire, ce fut la confusion entre le chaudron magique des premières œuvres et le Graal plus mystérieux des œuvres suivantes qui conduisit à définir le Graal comme un récipient, un bol, un calice ou un vase, au lieu du sang réal, le sang royal, auquel il faisait en fait allusion. Sur le fondement des premières sagas celtiques, parlant de chaudrons, de terres incultes et de périlleux châteaux, se superpose donc une structure judéo-chrétienne pour produire ce qu'on appelle aujourd'hui les romans du Graal. Et cette superstructure judéo-chrétienne, de façon assez révélatrice, est associée à maintes reprises avec les Templiers. Ainsi, dans Parzival, le plus grand et le plus important de tous les récits du Graal, Wolfram von Eschenbach dépeint les Templiers comme les gardiens du Graal et la famille du Graal. Il affirme aussi tenir l'histoire d'un certain Guyot de Provence, que l'on peut identifier comme Guyot de Provins, scribe et propagandiste appartenant à l'ordre du Temple. Plus éloquent encore, le fait est que le roman du Graal, connu sous le nom de The Percivals, qui par l'importance se place juste derrière la version de Wolfram, contient sans l'ombre d'un doute des allusions à l'ordre, l'ordre des Templiers. Non seulement dans la description des chevaliers, à manteau blanc blasonné d'une croix rouge, présidant à un secret sacré, mais par la teneur même de sa réflexion et de ses valeurs. The Percivals abonde en détails méticuleux et précis sur les armes et les armures, les techniques de combat et les caractéristiques des blessures. C'est manifestement l'œuvre non d'un troubadour ou d'un romancier, mais d'un homme de guerre. Et l'influence templière y est si omniprésente que la conviction que l'auteur anonyme était lui-même un templier est largement répandue. Dans des œuvres comme Le Parzival de Wolfram, et The Percivals, le lecteur est confronté à la combinaison syncrétique de deux traditions distinctes, l'une judéo-chrétienne, l'autre celte. Et le ciment qui les lie, pour ainsi dire, la structure métaphorique qui maintient ensemble ces deux éléments, est implicitement ou explicitement liée aux Templiers. À l'époque de Bruce, la tradition celtique, la mystique du Graal et les valeurs templières avaient fusionné pour former un amalgame unique dans lequel on se perd souvent. Ainsi, par exemple, on peut citer le célèbre culte celte de la tête, l'antique conviction que la tête était le siège de l'âme et que la tête de l'adversaire vaincu devait donc être tranchée et conservée. Et certes, la tête tranchée est aujourd'hui considérée comme un élément caractéristique de la culture celte archaïque. Elle apparaît peut-être avec le plus d'évidence dans le mythe de Bran le Bienheureux, dont la tête, selon la tradition, fut ensevelie tel un talisman à l'extérieur de Londres, la face tournée vers la France. Non seulement elle préservait la ville de toute attaque, mais elle assurait la fertilité de la campagne environnante et écartait les épidémies de toute l'Angleterre. En d'autres termes, elle remplissait des fonctions d'une similitude frappante à celle du Graal dans les romans plus tardifs. Elle reparaît plus tard sous la forme de l'homme vert, dieu de la végétation et divinité tutélaire de la fécondité. D'ailleurs, cet homme vert est sculpté dans la chapelle de Roslin, un lieu tout à fait ésotérique. Si vous avez vu le Da Vinci Code, vous comprendrez ce que je dis. Voilà, c'est un lieu absolument initiatique. À la même époque, les Templiers avaient leur propre culte de la tête. Parmi les charges d'ailleurs proférées contre eux et pour laquelle un certain nombre de chevaliers plaidèrent coupables, était mentionnée l'adoration d'une mystérieuse tête tranchée que l'on nommait Baphomet. De plus, quand les officiers du roi français firent irruption dans le temple de Paris le 13 octobre 1307, ils trouvèrent un reliquaire d'argent en forme de tête contenant un crâne de femme. Il portait une étiquette où figurait la mention « Caput 58M »« Tête 58 ». Cela peut d'abord ne sembler qu'une sinistre coïncidence, mais dans la liste des charges dressées par l'Inquisition contre les Templiers le 12 août 1308, apparaît ce qui suit. Je cite « Item, que dans chaque province, ils avaient des idoles, à savoir des têtes. Item, qu'ils adoraient ces idoles. Item, qu'ils disaient que la tête pouvait les sauver. Item, qu'elle pouvait les rendre riches. Item, qu'elle faisait fleurir les arbres. Item, qu'elle faisait germiner la terre, etc. » Ces attributs sont précisément au point de correspondre parfois mot pour mot ceux que les Romains associent au Graal et la tradition celtique à la tête sectionnée de Bran le Bienheureux. Il est donc clair que les Romains du Graal et les Templiers, en dépit de leur orientation fondamentalement chrétienne, assimilèrent des éléments essentiels à la tradition celtique. Ces éléments, pour déconcertants et macabres qu'ils nous paraissent aujourd'hui, auraient fait vibrer une corde atavique et familière dans le royaume celtique que Bruce tentait de rétablir. Ainsi, bien que les modèles celtiques qui servirent aux Romains du Graal n'aient pas représenté le Graal lui-même, tout au moins sous ce nom, d'autres éléments des Romains ultérieurs étaient certainement présents. Le Graal proprement dit apparut dans un long poème narratif, le Conte du Graal, écrit par Chrétien de Troyes, dans le dernier quart du XIIe siècle. Le Parzival de Wolfram et le Perlesvos anonyme, datant environ de la fin du même siècle, s'inspirait de matériaux et de sources dont Chrétien de Troyes, apparemment, n'était pas seul à en avoir connaissance. Mais c'est malgré tout du poème de Chrétien de Troyes que dérivent fondamentalement ses œuvres et tous les autres romans du Graal à un degré ou à un autre. On sait peu de choses de Chrétien de Troyes, et l'on a peu de moyens d'en glaner sinon par les dédicaces de ses œuvres et les éléments inhérents au texte. Ce qui en ressort est assez maigre, mais il semblerait au moins clair que Chrétien de Troyes travaillait sous la tutelle et le mécénat de cours aristocratiques, les cours des comtes de Champagne et de Flandre, lesquels avaient un rapport avec l'Écosse. Celle-ci entretenait des liens étroits, était aussi associée avec des attitudes religieuses hétérodoxes, y compris avec une des tendances de l'hérésie cathare. Tout se mêle. Les deux cours étaient aussi très proches des Templiers. D'ailleurs, trois quarts de siècle avant Chrétien de Troyes, le comte de Champagne avait été un personnage clé dans la création de l'ordre. Hugues de Payens, premier grand maître du temple, était son fidèle vassal et semble, en bonne logique, avoir toujours agi suivant ses instructions. Par la suite, le comte répudia son épouse et fut intégré à l'ordre, devenant ainsi, par un curieux paradoxe, le vassal de son propre vassal. Pour une grande part, les premières œuvres de Chrétien de Troyes sont dédiées à divers membres de la cour de Champagne et en particulier à la comtesse Marie. Mais sa version de l'histoire du Graal, composée entre 1184 et 1190, est dédiée à Philippe d'Alsace, comte de Flandre. Chrétien de Troyes dit explicitement que ce récit lui fit originellement relater par Philippe, qui le chargea ensuite de tisser une intrigue autour de ce sujet. Malheureusement, Chrétien de Troyes mourut avant d'avoir pu achever complètement son œuvre. Mais dans ce qui existe du poème figure un certain nombre d'aspects intéressants. Par exemple, c'est là que la capitale d'Arthur est pour la première fois nommée Camelot. Et Chrétien de Troyes désigne répétitivement Perceval par une formule qui sera plus tard adoptée par Wolfram et d'autres romanciers et en viendra finalement occuper une place importante dans la franc-maçonnerie. Le fils de la veuve, voilà l'expression. Alors c'est intéressant de voir la filiation des Templiers jusqu'aux francs-maçons. Cette formule possédait un sens caché qui était encore intelligible du temps de Chrétien de Troyes, mais qui fut perdu par la suite. Ce qui nous importe surtout de noter, c'est que, pour les éléments celtiques de son poème, Chrétien de Troyes puise dans un fond d'information autre que les sources anglaises et galloises établies. Non qu'il les ignore. Au contraire, il leur doit beaucoup. Il s'appuie largement sur l'histoire des Bretons de Geoffroy de Monmouth, récit quasi légendaire écrit vers 1138, qui fit découvrir au public le personnage d'Arthur. Il s'inspire aussi considérablement des contes archaïques tels que Pérédure et d'autres récits du Mabinogion gallois. Mais il y a des aspects de son poème qui ne doivent rien à ses sources traditionnelles. Des aspects spécifiquement, exclusivement écossais. D'ailleurs, il est clair que Chrétien de Troyes disposait d'une source d'information à part concernant l'Écosse. Et de l'avis des spécialistes, ce serait l'Écosse que Chrétien de Troyes tira certains traits fondamentaux de la géographie et de la topographie de son poème. Ainsi, par exemple, on aurait pu croire que son héros, Perceval le Gallois, provenait du pays de Galles. Non, non. Mais en fait, du temps de Chrétien de Troyes, le terme « Gaelis » ou « Gallois » était appliqué aux habitants de Galloway, en Écosse. Dans son poème, les chevaliers de la Table Ronde défendent les ports de Galvois, les portes de Galvois, s'agissant des limites du territoire dans lequel ils opèrent. Les spécialistes des romans du Graal s'accordent à dire que Galvois désigne nécessairement le Galloway. Chez Geoffroy de Monmouth, il y a des références au Castellum Puellarum, qui dans certains romans du Graal plus tardifs, mais pas ceux de Chrétien de Troyes, devient le célèbre château périlleux. En 1338, le traducteur et commentateur Robert de Brune précise que Castellum Puellarum est en fait le château bien réel de Calaveroc, dans le Galloway. Comme l'observe un des biographes modernes de Chrétien de Troyes, il est très possible que Robert de Brune ait répété la tradition accréditée, car dans sa jeunesse à Cambridge, il avait connu le futur roi Robert de Bruce. En tout cas, Calaveroc ne se trouvait qu'à 15 km d'Annan, berceau de la famille Bruce, dont les membres avaient été faits seigneurs d'Anlade par David Ier en 1124. On disait souvent des châteaux d'Annan et Calaveroc qu'ils gardaient la porte de Galloway. Bien que Chrétien de Troyes ne mentionne pas nommément de Castellum Puellarum ni de Château Périlleux, il parle effectivement d'une roche de Canguin qui, d'après au moins un spécialiste, dérive d'un embellissement de Calaveroc. Fait assez révélateur dans le poème, c'est ce site qui garde les ports de Galvois. Dans le poème de Chrétien de Troyes, la deuxième résidence d'Arthur, après Camelot, est appelée Cardeuil. Jusqu'en 1157, la capitale de l'Écosse était Carlisle, qui du temps de la chronique anglo-saxonne avait pour nom Cardeol, ce qui évolua ensuite en Carduil. Chrétien fait aussi mention d'un site religieux, le mont d'Olérus. On croit qu'il s'agit de l'abbaye de Melrose dans le Northumberland, fondée en 1136 et appelée du temps de Chrétien Mont Dolorosus. Ce serait là que, près de deux siècles plus tard, le cœur de Bruce serait enseveli. Au vu de cet argument et d'autres semblables, il est évident que Chrétien de Troyes, dont l'œuvre fait apparaître le Graal pour la première fois, greffe une notion spécifiquement chrétienne sur un corpus d'éléments beaucoup plus anciens, dont certains se réfèrent très précisément à l'Écosse. Un autre point. Il y eut beaucoup d'enrichissement et d'influence réciproque entre l'Écosse et les Flandres. Ça, on ne le sait pas toujours, mais vous savez, à l'époque, on voyageait, on faisait des transactions commerciales et chacun n'était pas confiné derrière sa barrière. À la suite de l'afflux de colons flamands, les villes écossaises prirent certaines caractéristiques typiquement flamandes, tandis que des éléments de l'antique héritage de l'Écosse celtique trouvèrent le chemin des Flandres, dans l'autre sens, et reparurent entre autres dans les romans du Graal. Une fois qu'ils eurent évolué devenant un genre à part entière, ils regagnèrent l'Écosse où leur élément celte original fut dûment reconnu et apprécié. Il n'est pas difficile donc d'imaginer combien les Templiers en exil auraient trouvé agréable ce cadre, propice aux aventures des chevaliers du Graal et des Templiers de Romans. Pour eux, l'Écosse était, pour ainsi dire, taillée sur mesure. Se présentant comme des chevaliers du Graal en chair en os, ils pouvaient aider Bruce dans ses campagnes et être acclamés comme des sauveurs. Dans quel autre endroit aurait-il trouvé une ambiance aussi hospitalière pour les survivants de l'ordre qui souhaitaient se séculariser, s'intégrer, se perpétuer, bien à l'abri de ceux qui les persécutaient? Oui, l'Écosse, terre de légende, et peut-être destination finale des Templiers, avec tout le cortège des mystères qu'ils ont amené avec eux, et peut-être même leur fabuleux trésor. Nous allons faire maintenant une pause musicale.
Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all, not at all. Then one fine morning she puts on a New York station, you know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music, you know her life was saved by rock and roll. Go out and dance.
Abordons maintenant notre sujet, l'énergie des guérisseurs. Bon, vous êtes peut-être allé en consulter certains, mais cela demande quand même un peu réflexion parce que ça bouscule la rationalité. Alors bien sûr, il y a des charlatans, hein, des escrocs, des gourous dangereux qui vous demandent d'arrêter les traitements médicaux pour ne pas faire barrage à leurs dons, entre guillemets. Mais ils sont aisément repérables par le discours, surtout sur les tarifs et les résultats. L'avantage d'un guérisseur par rapport aux autres travailleurs de l'occulte, c'est qu'on voit très vite s'il truque ou non, s'il soulage ou pas. La question se pose ensuite de savoir par quel biais il agit. Ouais. Quelle est la force qui l'anime? Là, on est souvent dans le flou. On entend parler de fluide, de magnétisme, d'ondes cosmiques, de biorésonance, de flux vibratoire, et j'en passe. Alors les sceptiques ricanent. Tout cela n'est que du flan, puisque ces prétendues énergies ne se mesurent pas. C'est faux. Le physicien James Hochman, en effectuant des mesures sur les mains de guérisseurs en action, ont pu détecter non seulement du son, mais aussi des champs électromagnétiques et de la lumière. Le médecin, chirurgien et psychothérapeute Thierry Janssen lui a mesuré que leur cerveau, en phase de soin, génère des ondes alpha oscillant autour de 8 Hz. Il entre ainsi en phase avec la résonance de Schumann, ce taux vibratoire de la Terre découvert par le physicien allemand Schumann en 1952. Intéressant quand même. Il semblerait donc que le pouvoir du guérisseur, qu'il concentre le cas échéant par des visualisations, des formules, des prières, des mantras susceptibles d'accentuer cette résonance, ne procède pas seulement de son métabolisme, mais de sa capacité à drainer des énergies ambiantes. Ce qui nous amène à poser la question qui fâche. Ces énergies mesurables, quantifiables et reproductibles, définition de phénomène scientifique, sont-elles réservées à la guérison? Au camp d'entraînement de Deer Lake, aux États-Unis, la plus prestigieuse unité d'intervention policière, le SWAT, reçoit des cours de perfectionnement dans une technique de combat assez particulière, la lutte psychique. On ne s'envoie pas des pains, mais des ondes. On ne se castagne pas la pensée. On se donne des coups de latte virtuels. On se fait des croche-pattes mentaux, des chaos énergétiques. Ben voyons. Et cette énergie s'évalue sous nos yeux au moyen d'un détecteur thermique. Regarde ce que tu vas recevoir dans la tronche, semble dire à son élève l'un des professeurs d'arts psychomartiaux en façonnant, dans ses mains nues, un genre de boule de neige invisible. Le détecteur thermique se place dans le vide au-dessus des pommes. Sur l'écran, l'image, qui est grise en chaleur normale, vire immédiatement au blanc tandis que le compteur passe de 93 à 100 degrés Fahrenheit. L'énergie dégagée par les mains du professeur vient d'être mesurée. Son poing part en avant. À 6 mètres de distance, sans le moindre contact, son adversaire est envoyé au tapis comme par le souffle d'une explosion. Ouais, on dirait un petit peu Star Wars, hein. Pourtant. Simulation. Alors, trucage. L'intervieweur, le très scrupuleux Stéphane Alix, toujours prompt à expérimenter l'impossible avant de le valider, va se retrouver lui-même successivement projeté au sol, tiré en avant, en arrière, pour finir par s'affaisser sur ses jambes molles, vidées de tout élan vital, et sans que jamais la main de son adversaire l'ait même effleurée. Et il dit ceci, « J'ai senti que vous aspiriez toute mon énergie », se plaint-il. Oui, oui, confirme l'entraîneur placide. J'ai d'abord visualisé la mienne qui sortit de moi par les pieds venus d'en dessous jusqu'à toi pour te déraciner par l'esprit. Voilà un aperçu de ce qu'on peut voir et entendre dans l'épatant film documentaire de Natacha Calestrémé, Ils guérissent par l'énergie. Le titre n'est pas trompeur. Le maître des lieux, Georges Dillmann, un colossal papy ventru de 72 ans, ceinture noire de karaté 10e dan, a formé à cette technique d'attaque invisible le pouvoir de l'énergie, comme il dit, non seulement l'élite des forces d'intervention américaines, mais aussi des acteurs martiaux comme Bruce Lee ou Jean-Claude Van Damme. et même le légendaire boxeur Mohamed Ali. Impressionnant de sérénité bouddhiste, malgré le ridicule des lettres flashy de son site web, scintillant dans le dos de son kimono, Wildam est aussi efficace dans la castagne virtuelle que dans la vulgarisation. Avec une précision débonnaire, il nous explique que l'énergie mentale, grâce à laquelle il envoie sous nos yeux 12 hommes au tapis sans les toucher par une simple décharge d'aura, est la même que celle qui permet de soigner avec les mains à distance. Voilà qui est dit. Alors les Chinois appellent cette énergie le qi. Tout part du 8e cœur, dit-il, un point d'acupuncture situé au creux de la paume par où s'échappe une force vitale considérable si on sait la canaliser. Voilà l'explication. Enfin, d'après eux. Beaucoup de gens qui ont suivi un stage ici sont devenus guérisseurs, ajoute son assistant, parce que il est plus gratifiant d'enlever un mal de tête à quelqu'un que de lui provoquer. On verra plus loin que ces praticiennes de terrain sont arrivées par des techniques de combat enseignées depuis des millénaires en Chine et au Japon à des conclusions analogues à celles des plus fins théoriciens de la physique quantique. Mais dans l'immédiat, quittons l'exotisme yankee de ce camp d'entraînement aux violences de l'esprit pour plonger dans la rigueur feutrée et la pesanteur administrative du 36 Quai des Orfèvres. Vous le connaissez tous. Ce haut lieu de la police parisienne compte en effet dans ses rangs l'un des guérisseurs les plus performants que je connaisse, le commandant Robert Martin. Jusqu'à sa retraite toute récente, ce grand flic imposant et courtois bénéficiait d'une dérogation spéciale délivrée par le ministère de l'Intérieur, un document officiel l'autorisant à utiliser ses dons de magnétiseur pendant ses heures de service. Enquêteur d'élite et thérapeute de choc, le commandant Martin a su se montrer aussi modeste que discret dans l'exercice de sa double activité. Mais ses collègues et ses patients ne tarissent pas d'éloges sur la fulgurance de ses interventions, sa façon de perquisitionner le métabolisme, d'identifier la source du mal et de neutraliser la douleur. « Je ne guéris pas, je soulage », précise-t-il avec une humilité pas dupe. La guérison, c'est l'affaire des médecins. Habitué à ne pas heurter la sensibilité des bœufs carottes, c'est-à-dire les contrôleurs de la police des polices, ni la susceptibilité des veaux aux hormones, les médecins du Conseil de l'Ordre, instance créée par le gouvernement de Vichy, dont le général de Gaulle surnommait ainsi les membres, si l'on en croit Romain Gary, le flic magnétiseur continue en toute simplicité à faire fructifier l'héritage spirituel de sa grand-mère, à qui il estime devoir ses dons de guérisseur. Donc on note ici l'effet de transmission. Il n'est pas le seul. La transmission de ce genre de pouvoir s'opère le plus souvent ainsi de façon héréditaire. Un rejeton choisi pour ses dispositions et ses qualités d'âme reçoit le secret d'une prière thérapeutique, d'un rituel particulier, d'une technique, d'un savoir-faire, et il reprend le flambeau. Parfois, il s'agit même d'un don extrêmement ciblé, voire d'une spécialité locale. Le journaliste Jacques Pradel m'a raconté le cas d'une paysanne apte à guérir exclusivement une pathologie de sa région. Les affections oculaires des personnes travaillant sur le site d'une carrière de granit à côté de chez elle. Comme d'autres sont appelés des barreurs de feu, cette dame était localement vénérée en tant que barreuse de pierre. Son petit-fils, toute son enfance, l'avait entendu dire qu'elle lui lèguerait un jour la prière destinée à guérir les yeux blessés par les éclats de roche. Le temps passé, la mamie prenait de l'âge et le gamin devenu adulte lui rappelait périodiquement sa promesse. « Oui, oui, un jour je te dirai le secret, on a le temps », et lui dit-elle. Elle approchait les 100 ans, diminuait de jour en jour, mais s'obstinait face à son insistance à lui répondre qu'il n'y avait pas d'urgence à transmettre ce don. Elle finit par mourir en emportant dans sa tombe le secret de la prière qui barre la pierre. Son légataire putatif, enragé, il aurait pu effacer tant de blessures ophtalmiques sans cet égoïsme sénile de Dea ex machina qui refuse de passer la main. 3 semaines plus tard, pour raison économique, la société exploitant la carrière était mise en liquidation judiciaire et le site fut définitivement fermé. La grand-mère l'avait-elle senti ? À quoi bon transmettre un secret qui n'aurait plus eu de raison d'être ? Cela dit, lorsqu'elle s'opère du vivant, des guérisseurs, la transmission peut prendre parfois des chemins assez tortueux. À l'été 2014, un jour où je modifie un billet d'avion par téléphone, l'opératrice d'Air France s'exclama à l'énoncé de mon nom qu'elle était en train de me lire et qu'elle se sentait très concernée par la manière rigolote dont j'abordais les phénomènes inexpliqués. Oubliant que je risquais de rater mon avion si je ne raccrochais pas très vite, je me pris à écouter ses confidences. En fait, gagnant sa vie à mi-temps comme standardiste aérienne à domicile, elle était par ailleurs, durant ses loisirs, guérisseuse. Tout avait commencé par une douleur dans l'épaule dont elle n'arrivait pas à se défaire. On lui avait conseillé d'aller voir un magnétiseur réputé dans le canton, tout en la mettant en garde. L'homme était d'une grande efficacité, mais il commençait un Alzheimer et ne se rappelait pas toujours qu'il possédait ce don. Il fallait parfois l'en informer, le convaincre que ce n'était pas une blague et se montrer persuasif pour obtenir une séance de soins où, après lui avoir placé les mains sur la zone au problème, on devait attendre que ça chauffe tout seul, le magnétisme en self-service. Tout se passa bien pour Anne-Marie Collomb, ma télétravailleuse d'Air France m'autorise à citer son nom. Le guérisseur était en pleine possession de sa mémoire le jour où elle lui demanda une séance, et sa douleur disparut en quelques minutes. Ravie, elle repartit avec une épaule toute neuve, mais pas seulement. Quelques jours plus tard, posant dans un élan navré la main sur la cheville de son fils qui venait de se faire une entorse, Anne-Marie le vit se relever aussitôt et marcher s'emboîter en criant au miracle. Elle découvrit ainsi, à sa grande stupeur, qu'elle avait reçu le don de guérir. Un don que lui avait transmis à son insu, par effraction si on peut dire, un thérapeute conscient de sa maladie d'Alzheimer et qui avait profité d'un de ses derniers moments de lucidité pour léguer clandestinement son pouvoir à une personne qu'il avait senti apte à en assurer la pérennité. C'est du moins la conclusion d'Anne-Marie. Transfert manuel, physiologique ou psychique, elle ne sait pas. Elle ne saura jamais. Son légataire est mort très vite après la perte de ses facultés mentales. Mais elle fait avec. À sa mémoire, elle soulage collègues et clients d'Air France. Cette rencontre téléphonique est assez typique des synchronicités qui jalonnent ma vie, dès que je prends le temps de m'y arrêter. Le temps, oui. En toute logique, j'aurais dû interrompre très vite les compliments littéraires de ma vendeuse de billets pour ne pas rater mon avion et donc me priver du récit qui a suivi. J'aurais eu bien tort à double titre. D'abord, suite à un problème technique, l'avion qui avait décollé sans moi est arrivé à destination 2 heures après le vol sur lequel je m'étais rabattu. Et ensuite, l'histoire de ce leg thérapeutique d'un guérisseur à une opératrice d'Air France que j'ai raconté le lendemain dans mon émission sur RTL aux côtés de Jacques Pradel a déclenché par sa tonalité propice à léguer l'atmosphère sous-entendue autour de ces sujets une passionnante confidence de notre invitée du jour, la journaliste et réalisatrice Natacha Calestrémé, sur son propre don de guérisseuse, dont elle n'avait jamais encore parlé dans les médias. Aider une information à circuler, c'est comme faire une passe magnétique, disait le professeur Rémi Chauvin. Fatalement, ça débloque quelque chose quelque part. Le guérisseur n'est qu'un intermédiaire. En tout cas, ces dernières années, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, bien des blocages ont disparu. Le statut des guérisseurs magnétiseurs et autres rebouteux a profondément évolué, quittant le régime du folklore rural pour être quasiment officialisé par des administrations urbaines. Longtemps, le ministère des Finances fut le seul à reconnaître la profession de guérisseur, en la soumettant d'ailleurs à la TVA au même titre que les prostituées. Nous faisons des passes comme elle et nous sommes tout aussi utiles, justifie avec une saine insolence Luc Jean, magnétiseur à Saint-Aubin-le-Guichard. Et puis le ministère de l'Intérieur s'est mis à son tour, on l'a vu, en validant le don du commandant Martin par une autorisation d'exercice légal de son magnétisme. Mentionnons également Alors, c'est plus surprenant. La compagnie EDF, qui envoyait ses engins victimes de chocs à haute tension, se faire désélectriser par Annie Souche. Aujourd'hui, signe des temps, ce sont les hôpitaux eux-mêmes qui en viennent à prescrire le recours aux guérisseurs. Sur les tableaux de service de certains CHU, on trouve ainsi des listes d'astreintes de magnétiseurs, barreurs de feu et autres soigneurs occultes du corps énergétique. Les patients ont le choix. Dans Les Guérisseurs, le premier des deux documentaires que Natacha Calestrémé et Stéphane Alix ont consacré au sujet dans la série Enquête extraordinaire, on peut voir ainsi le chef du service des urgences de l'hôpital d'Annemasse, le docteur Tavernier, commenter les résultats obtenus face à la douleur par les magnétiseurs auxquels elle téléphone elle-même. En 30 secondes, avec le barreur de feu, c'est réglé. Aucun médicament ne peut réussir cela. À l'hôpital de Thonon, même son de cloche avec une mention spéciale pour l'action des guérisseurs à distance sur la cicatrisation post-opératoire. Donc pour toutes ces raisons, le service qui a le plus souvent recours aux compétences de ces magnétiseurs au sein des SHU, c'est celui des gants brûlés. À Besançon, le docteur Pierre Lacroix, chirurgien spécialiste des greffes de peau, s'extasie sur le cas de Florie, une étudiante en sixième année de médecine hospitalisée après avoir pris feu dans sa cuisine. Ses souffrances étaient telles que la morphine n'y pouvait rien. Le seul recours était l'anesthésie générale, tous les deux jours, jusqu'à ce que sa mère fasse appel à un barreur qu'on lui avait recommandé. Un quart d'heure après l'intervention de ce magnétiseur, raconte le docteur Lacroix, elle ne souffrait plus du tout, ce qui est inconcevable, vu la gravité de ses brûlures au deuxième degré. Sans le moindre antalgique, elle a pu quitter l'hôpital pour continuer ses soins à domicile, ce qui a permis à la société une économie de l'ordre de 15 000 euros. Si le docteur Lacroix souligne avec autant de naturel les autres prouesses du guérisseur, accélération spectaculaire de la cicatrisation, diminution considérable de la période inflammatoire, etc., c'est que son ouverture d'esprit relève d'une longue expérience. Il était tout jeune chirurgien lorsqu'il a pu constater l'action d'un barreur de feu sur un bébé gravement brûlé qui ne pleurait absolument pas malgré le calvaire des changements de pansement et de la greffe de peau. Sur un enfant de 10 jours, dit-il, on peut difficilement évoquer un effet placebo ou je ne sais quelle autre explication, autosuggestion, etc. Face à de tels résultats impossibles à obtenir par des traitements classiques, le neuropsychiatre David Chernenchever arrivait de son côté à une conclusion qui, peu à peu, est en train de réconcilier observateurs ouverts et sceptiques vigilants. Il dit ceci. Alors je ne sais pas si le magnétisme est une médecine scientifique, mais vu son taux de réussite, elle est rationnelle. Et ce n'est pas tout. À Lausanne, le service d'oncologie du très moderne hôpital de la Source a été l'un des premiers à orienter ses patients cancéreux vers des magnétiseurs afin de soigner et même de prévenir les effets secondaires de la radiothérapie. Il supporte les traitements comme une fleur, se réjouit le docteur Claire Guillemin, qui dirige l'unité de radio-oncologie. Et c'est inexplicable médicalement. Un guérisseur n'a certainement pas un faisceau aussi précis et aussi technologiquement pur que nos appareils à électrons et photons, mais probablement il y a une partie qui est similaire. Comme un nombre croissant de ses confrères, cette praticienne chevronnée se félicite de la réussite de ces thérapies parallèles sans en comprendre le fonctionnement. Mais un état d'esprit encore plus avant-gardiste règne à l'hôpital universitaire de Harvard, près de Boston. En termes de résultats, publications et pourcentages de prix Nobel de médecine, il est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Et pourtant, dans ce temps du sérieux scientifique, des guérisseurs sont carrément priés par des chirurgiens de les assister au bloc opératoire. Stéphane Alix a interrogé séparément le docteur Laurence Conde et Patricia Arelli, son assistante magnétiseuse, ainsi que leur patient Ed, avant et après l'opération à cœur ouvert que ce dernier a subi. Un tel niveau de compétence et de réputation, à quoi peut bien servir la présence de magnétiseurs lors d'une intervention de ce genre? Eh bien, à rééquilibrer les énergies du patient, répond Patricia Arelli, pour qu'il puise dans ses propres ressources les outils de sa guérison. Sur un plan plus technique, elle précise que l'énergie, au lieu de circuler librement dans le corps physique, reste bloquée à l'endroit où l'on a pratiqué une incision. Elle s'emploie donc à contrer cet effet bistouri. Le docteur Cohn, quant à lui, n'a pas d'état d'âme. Tout ce qui est positif pour le cœur est bon à prendre. Il ajoute que les ondes apaisantes de la guérisseuse bénéficient à l'ensemble de l'équipe chirurgicale, et l'opéré se réjouit d'être sur pied aussi vite. Bref, tout le monde est content. Où est le problème? Les sceptiques grincheux n'ont qu'à aller se faire soigner ailleurs. Comme le disait David Servan-Schreiber, le contrat qui lie le médecin à son patient est fondé sur l'amélioration de son état, pas sur l'explication rationnelle qu'elle se devrait d'impliquer. Nous ne comprenons pas exactement comment ça marche, conclut le chirurgien de Boston après avoir commenté les résultats de sa guérisseuse adjointe, mais ça marche. C'est tout ce qui importe. Ce même désir d'une médecine intégrative qui sache tirer la meilleure partie de nos potentiels de guérison, on le retrouve en Afrique, mais pas dans le même esprit. Si la science américaine redécouvre en termes de plus-value le secret des pratiques ancestrales, la médecine africaine, elle s'efforce à l'excellence pour se maintenir au niveau des anciens. Au Mali, par exemple, le professeur Diop, chef du service de chirurgie à l'hôpital de Bamako, tient un discours renversant pour nos oreilles cartésiennes. Du haut de ses 10 ans d'études médicales en France, il déplore avec une fière humilité de ne pas posséder le savoir ni le savoir-faire des guérisseurs traditionnels. Il est nomme des tradis praticiens, se renseigne sur leurs résultats, les invite à intégrer son service en qualité de consultant, parce qu'ils font partie du tissu social et que les patients leur font confiance. D'ailleurs, le jour où ce chirurgien de renom s'est cassé le doigt, c'est chez le guérisseur Diarré qu'il est allé se faire soigner. Son seul regret, ses thérapeutes de l'invisible estiment trop souvent que les médecins conventionnels comme lui n'ont pas encore atteint le niveau spirituel requis pour recevoir leur enseignement énergétique. Autant de perdus pour les malades. Quant au docteur Koumaré, chef du service de psychiatrie au même hôpital de Bamako, lorsqu'il rencontre un guérisseur dont les patients attestent les performances, il appelle « mon cher confrère ». Donc visiblement en Afrique, il y a moins de barrières entre ces diverses disciplines. Voilà donc quelques aspects de ce que certains appelleront « choses farfelues », à chacun de juger. Mais les faits sont là, les guérisons sont là. Ça heurte certes notre rationalité, mais depuis que l'on fouille dans la mécanique quantique et qu'on sait que notre corps est rempli d'énergie, je pense qu'il y a beaucoup de chemin encore à faire sur la compréhension de l'homme global. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. We'll be right back.
wish we could.